Vous écoutez Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Si vous vous sentez inspiré par notre émission, nous vous invitons à faire entendre votre voix. Chaque épisode est le fruit des collaborateurs du moment. Aube, c'est aussi une revue et un blog avec plus de 400 entrées sur tous les sujets. Toutes nos émissions sont disponibles en balado et chaque capsule peut être téléchargée via laplumedefeu.com. Aube, épisode 34. Que ce soit « Ah, l'amour » ou « Oh, le sexe », ces sujets n'ont pas fini de faire couler beaucoup d'encre. Dans ce 34e épisode, Aube s'est intéressée à l'amour et à la sexualité sous toutes ses formes, surtout les plus inusitées, et c'est probablement pas ce à quoi vous pensez. Au sommaire, l'amour, le couple et la sexualité après l'arrivée des enfants, la fidélité et le polyamour, la méthode symptothermique, l'amour au temps de Bukowski, une entrevue avec les instigatrices du site de nouvelles érotiques jesuisvenu.com, et pour conclure, la sexualité chez les punaises de lit. Pour nous guider tout au long de cette émission, j'ai invité Edith Fanny Morin et Kim Brière-Charret de l'émission Le sexe a ses raisons, une émission de fond sur la sexualité humaine diffusée sur les ondes de CIBL à venir nous placer quelques points de repère afin de s'y retrouver un peu. Aube te propose de te rassembler autour de valeurs humaines, écologiques et collectives, de prendre action simplement par une prise de conscience. Le mot-clé? Ah! L'amour. Tout a tellement été dit, écrit, chanté sur ce sentiment universel. Comment parler sans tomber dans le cliché? En fait, pour tout dire, je ne crois pas en l'amour. C'est-à-dire, je ne crois pas en l'amour tel qu'il est présenté dans notre culture populaire, actuelle et passée. Ce désir de l'autre, cette construction de rêve, d'espoir, cet appel si profond vers la fusion qui nous amène à actualiser ce qui est de plus merveilleux en nous, puis à descendre dans ce qu'il y a de plus douloureux. Est-ce vraiment ça l'amour? J'appellerais plutôt ça de l'attraction. Attraction physique, mentale, émotionnelle, pour plusieurs raisons qui échappent souvent à notre psyché. Cependant, la plupart du temps, l'amour est mélangé à de la dépendance affective non assumée. Et c'est ce sentiment que l'on recherche, ce fixe, cette intensité, celle qui nous fait sourire à la vie d'un grand sourire d'espoir. Pourtant, je suis amoureux de cet amour-là. Je suis un éternel amoureux. J'aime aimer. J'aime fusionner, devenir un avec l'autre, devenir une entité puissante et pleine de potentialités créatrices. Je sais trop bien que tout a un prix. Se perdre dans l'autre, c'est se perdre soi-même. C'est donc l'amour de moi que je veux nourrir avant tout. C'est le chemin le plus difficile, mais c'est celui qui me semble le plus durable et le plus écologique. Être entier, uni à un autre être entier. Mais comment garder cet équilibre précaire entre l'expansion et la contraction? C'est ce que j'explore jour après jour, dans la lumière et dans l'ombre. Au fond, l'amour véritable serait pour moi une profonde amitié dans laquelle l'un et l'autre passent à travers les remous, dans un climat d'acceptation et de bienveillance. Ce genre de relation se poursuit à travers le temps, et si la confiance en est une des composantes essentielles, l'amour de soi en est une autre. Dans cet espace, le sentiment d'amour universel et d'extase que l'on ressent dans toute vie à certains moments peut vraiment s'enraciner. L'extase, c'est cet état dans lequel nous sommes reliés à plus grand que nous, cet état dans lequel le yang et le yin s'imbriquent dans l'unité. Nous devenons ainsi indifférenciés. Nous devenons source primordiale. Cet état est si puissant qu'il ne peut faire autrement que d'ouvrir des portes fermées à clé et faire sortir les ombres du placard. Mais quand l'amour-amitié est fort, ces chimères n'ont plus d'emprise sur nous. En ce temps où les relations naissent et meurent l'instant d'une consommation, est-il encore possible de vivre l'amour tel que je le conçois? J'en suis certain.
Alors, la sexualité, ça ne se coupe pas. au couteau. Mais aujourd'hui, on la décortique avec vous, à commencer par le corps.
Le corps humain, en fait, c'est le premier pôle, bien sûr, de la sexualité. On pense à toutes les sensations qu'on ressent lors des relations sexuelles, mais également, donc, de notre anatomie, de notre corps, comment il est fait. Donc, mon corps d'homme, mon corps de femme, les organes génitaux, les caractères sexuels secondaires, les seins, etc. Donc, tout cet habitacle et ce véhicule-là, ou ce temple sacré selon nos valeurs et nos croyances, bien, en fait, il est vraiment au cœur de la sexualité humaine.
Et puis, la sexualité, justement, dans sa dimension biologique, il y a vraiment un petit côté médical, là, quasiment, quand on parle de médicalisation de la sexualité. Des fois, on se rend compte qu'on se centre trop sur tout ce qui concerne le physique. Et c'est pourquoi on va explorer en profondeur d'autres dimensions de la sexualité.
On peut penser aussi à tout ce qui est prévention, infection transmissible sexuellement et par le sang, et ce qui est aussi lié à la contraception. Donc, toutes les méthodes de contraception, les impacts sur notre corps, les impacts sur notre sexualité également.
Et les fameuses ITSS, les infections transmissibles sexuellement ou par le sang, ça en fait partie. Mais je pense qu'il faut garder en tête aussi que, par exemple, si on pense à toutes les zones érogènes, là, pour reprendre l'idée des sensations au plan corporel, ce qui est essentiel de retenir, c'est que la peau, c'est la plus grande zone érogène du corps humain.
La première fois, des fois juste en claquant des doigts, la première fois qui se déclenche malgré soi, la première fois, toujours en évitant la file, la première fois qu'on voit ce que c'est qu'une fille.
La première fois, en escarpin ou en guenille, la première fois, celle qui apaise et qui frie, la première fois, ça laisse un goût indélébile, une première fois,
un peu comme sur le toit du monde.
Et malgré soi, s'attacher à quelques secondes, la première fois. Et pourquoi pas une deuxième, la première fois que l'arbre découvre la sève et ça se voit.
L'enfant a découvert l'enfer.
C'est moi le roi,
livré aux caprices des reines.
La première fois, qu'elle fut courte, qu'elle fut brève, la première fois, blottie de silence.
Un cri,
la première fois.
Et puis bien d'autres se sont suivis.
Un des enjeux majeurs concernant la contraception moderne est certainement l'aspect écologique. La grande majorité des contraceptifs étant très polluants pour l'environnement. Leurs multiples emballages, leur composition de latex, l'ajout recommandé de produits toxiques. En plus d'être chimiques pour l'environnement, certaines méthodes de contraception le sont aussi pour le corps. En effet, la grande quantité d'hormones ingérées par une femme utilisant une pilule contraceptive demeure très longtemps dans son organisme, malgré le fait qu'elle ait cessé de l'utiliser depuis plusieurs mois. Ces hormones sont aussi sécrétées dans l'urine qui se retrouve ensuite dans la nature. Voici donc le fonctionnement d'une méthode contraceptive biologique de plus en plus fiable, 100% écologique, et qui offre la possibilité d'être utilisée dans un cadre de fertilité pour ceux et celles qui veulent des enfants. La méthode symptothermique est une combinaison de trois méthodes naturelles pour déterminer le moment de l'ovulation dans le cycle menstruel d'une femme. La méthode du calendrier, la méthode thermique et la méthode de Billings. La méthode du calendrier prend plusieurs mois d'adaptation et requiert une prise assidue d'informations pour que la femme puisse l'utiliser de façon sécuritaire, à des fins de contraception ou de façon officielle pour devenir enceinte. Sur une base d'environ 6 à 8 mois, la femme note la durée de ses cycles menstruels en remarquant le plus court et le plus long. À partir de ces deux informations, elle pourra faire un calcul lui permettant de connaître les journées où elle est plus fertile en soustrayant 18 à son cycle le plus court et à 11 à son cycle le plus long. La femme ne serait donc possiblement fertile qu'entre le 3e et le 19e jour de son cycle. La méthode thermique se base sur une élévation de la température qui se produit 24 heures après l'ovulation. La température doit être prise tous les jours, au même moment de la journée. Le matin est le plus conseillé, et de la même façon. Une variation de plus de 0,2 degrés Celsius par rapport au jour précédent est suffisante pour déterminer qu'une ovulation s'est produite. Il existe un appareil, le BioSelf, environ 150 $, qui, en plus de prendre la température, calcule automatiquement les jours de fertilité par rapport au cycle précédent. La méthode de Billings, quant à elle, observation de la glaire cervicale, est la dernière méthode que comprend la méthode symptothermique. Selon la période de son cycle, la femme peut observer des changements dans sa glaire cervicale. La quantité, la couleur et l'élasticité peuvent se modifier au cours du mois et indiquer si la femme est fertile ou non. La glaire cervicale a pour fonction de protéger et de faciliter le passage des spermatozoïdes dans le vagin de la femme jusqu'à l'utérus. En plus de cette méthode, la femme peut effectuer un auto-examen du col de son utérus si elle arrive facilement à y toucher. S'il est résistant et ferme, elle peut conclure qu'elle n'est pas en période fertile. Au contraire, si le col est difficile à atteindre et que sa consistance est souple et molle, la femme peut en déduire que le col de son utérus est entrouvert et qu'elle est en période fertile. La femme doit donc, pendant quelques mois, prendre sa température, observer sa glaire cervicale et son col de l'utérus, calculer la longueur de ses cycles et noter le tout dans des tableaux pour observer les signes de sa propre ovulation. La combinaison des trois méthodes est fortement recommandée puisqu'aucune méthode utilisée seule ne permet une efficacité valable. Malgré tout, il y a des désavantages à la méthode symptothermique. En effet, la femme doit être à l'aise avec son corps. Elle doit être en mesure d'effectuer la prise de données tous les jours, sans exception. Au début, l'apprentissage et la prise de données sont très longs. La collaboration du partenaire est requise, puisqu'il doit comprendre que certaines périodes sont plus fertiles que d'autres. Même si la femme n'ovule pas exactement à ce moment précis, ce qui peut rendre difficile la spontanéité dans les relations. La méthode symptothermique n'est pas adaptée à tout le monde. Par exemple, la période de postpartum, où le cycle menstruel est déséquilibré à cause des hormones, n'est pas assez stable pour que cette méthode soit efficace. C'est la même chose à l'adolescence et à la priménopause, où les cycles sont irréguliers, ce qui ne permet pas d'obtenir des données valables. De plus, le corps humain étant fragile et sensible, le stress, la fatigue ou une simple grippe peuvent influencer des données comme la température et biaiser les résultats pour tout le mois. Enfin, quelle que soit la méthode que vous choisirez, assurez-vous de vous sentir confortable avec son utilisation, qu'elle respecte vos choix, vos valeurs et vos croyances et qu'elle vous offre une sexualité épanouie.
Pour plus de renseignements, l'organisme Serena offre des ateliers, des cours et la documentation sur la méthode symptothermique sur leur site Internet, serena.ca. Un texte de Gabriel Garand tiré de Aube, le recueil de solutions. Narration et adaptation de Marie-Claude Journon.
Une petite chansonnette grivoise intitulée « Vous comprenez l'allusion ». Vous allez la comprendre, je ne m'en fais pas.
Ah, que c'est mignon, papy qui embrasse mamie, sur la bouche. Puis sais-tu si mamie et papy, ils aiment faire plus que des petits becs mignons sur la bouche ? As-tu déjà laissé divaguer ton esprit à penser que oui, papy et mamie s'éclatent peut-être encore ensemble, autrement qu'en jouant en sudoku ? Ça peut nous gêner d'y penser, c'est un des derniers tabous. C'est comme si l'âge avancé attribuait cette glorieuse auréole de sagesse conférant à la sainteté, attribuée seulement à ceux qui se sont enfin éloignés des perturbations de la chair. Ou bien comme si le sexe, cette chose finalement un peu futile, ne les concernait plus. Est-ce par goût ou dégoût que le sexe s'éloigne de nous avec l'âge ? Est-ce que l'envie s'éteint avec le temps ? Est-ce que la sexualité n'aurait pas une autre signification, une autre couleur, lorsque les tuyauteries fonctionnent difficilement ou lorsque les galipettes risquent de se terminer en fracture du col du fémur ?
Dans un restaurant un matin, je fis connaissance d'un petit crottin à l'air mutin. Elle m'avait plu, je le confesse, parce qu'elle avait de très belles dents. C'était tentant.
Tout d'abord, l'état des recherches dans le domaine n'est pas très avancé. Entre les lacunes dans les enquêtes sérieuses et le porno qui donne une place au troisième âge, souvent pour le pire d'ailleurs, il est difficile de faire un portrait objectif et pertinent de la sexualité chez les aînés. Rainer Hornung est professeur de psychologie sociale et sanitaire à l'Institut de psychologie de l'Université de Zurich. Il a participé à l'étude interdisciplinaire conduite sur les déterminants de l'activité et de la satisfaction sexuelle dans la seconde moitié de l'existence, en ayant pour objectif d'étudier l'intérêt, l'activité et l'épanouissement sexuel chez les gens du troisième âge. Selon ce chercheur, la sexualité humaine est un domaine à approcher de manière multidisciplinaire car elle est à l'embranchement de la biologie, de la psychologie et des codes sociaux d'une population donnée. Les participants à cette étude, 800 femmes et 700 hommes, venaient de Suisse et étaient âgés de 45 à 91 ans. Cette étude a mis en évidence l'intérêt très présent pour la sexualité et l'importance de la tendresse durant la troisième partie de la vie. Cependant, si l'intérêt et le désir existent, la pratique, elle, ne suit pas forcément. Parce que les obstacles physiologiques sont bien réels, pour les hommes et pour les femmes, parce que la mortalité des hommes laisse beaucoup de femmes sans partenaire, et oui, la différence d'espérance de vie entre hommes et femmes devient ici bien tangible, et parce que les codes sociaux ne voient pas toujours d'un très bon œil la pratique du sexe chez les plus âgés.
Tandis que je me réjouissais, auprès de moi la petite demanda un autre plat. Puis elle me dit, où c'est que t'habites? Tu dois avoir une belle demeure, très supérieure.
Côté physiologie, il faut tout d'abord faire la différence entre la réponse sexuelle, donc l'érection, la lubrification vaginale, l'éjaculation, et le désir sexuel, qui est l'envie de l'autre. S'il existe un ralentissement de la réponse sexuelle chez l'homme ou chez la femme, les difficultés érectiles chez l'homme, l'absence de lubrification chez la femme ménopausée, il n'y a pas forcément disparition du désir sexuel. Cette transformation physiologique ne marque pas pour autant la fin déterminée d'une activité sexuelle, mais sa transformation. Si la relation envisagée dans son côté génital n'a plus la même importance ou n'est plus pratiquée avec la même fréquence, elle reste malgré tout un élément d'importance pour la santé psychologique et physiologique des individus. Rappelons en passant que la médicalisation de la sexualité pour les aînés ne résout pas tout. En effet, les pilules permettant de remédier aux troubles érectiles doivent être précédées par une certaine appétence sexuelle, donc l'envie de l'autre, le désir, et doivent être prises dans un contexte de disposition psychologique et émotionnelle favorable. Donc en gros, même si on prend une pilule magique, s'il n'y a pas de désir ou si on a l'esprit ailleurs, ça ne marchera pas. Et oui, le cerveau reste le plus gros organe sexuel de notre corps.
Pendant que le taxi s'ébranle, je lui dis « je voudrais que tu me racontes sans fausse honte ce que tu fais comme métier et si tu prends souvent de l'argent, c'est épatant. » Oh, je ne travaille pas sur l'enclume, seulement quelquefois je taille des robes, mais je me dérobe.
Le sexe, quand on entre dans le troisième âge, peut même être marqué par un réel épanouissement. Si la fin de la fertilité chez la femme peut signifier un changement de statut pas toujours bien vu et vécu, surtout dans notre société occidentale, elle peut s'accompagner d'un gain de liberté et d'une amélioration du statut dans certaines sociétés musulmanes et africaines. Loin de l'image de carte postale de mamie qui fait ses confitures ou des premières enquêtes sociologiques à la froideur presque clinique, l'ouvrage « Sex After » d'Iris Krasnov met en avant une sexualité épanouie pour le troisième âge. Les témoignages rapportés par l'auteur font écho au site et aux conseils prodigués par le Dr. Ruth Westheimer, intrépide sexologue de 85 ans qui possède sa propre chaîne YouTube et encourage avec un accent sans pareil de psychanalyste autrichien quelques conseils truculents pour ceux et celles qui souhaitent explorer leur sexualité comme s'ils ne l'avaient jamais fait auparavant. Le Dr. Ruth, interrogé par Iris Krasnov, met en avant que les femmes entre 70 et 80 ans sont parmi les plus avides de conseils en matière de masturbation, de sexe oral et de vibromasseur. À une époque où la durée de vie s'allonge, où les hormonothérapies et la médication de la sexualité devient courante, l'envie de garder une vie sexuelle active, bien que transformée, découle tout naturellement. Mais il s'agit d'une sexualité différente, non pas basée uniquement sur la tendresse, image bien trop largement véhiculée par les films ou la pub. Non, ici il s'agit d'une sexualité bien réelle, assumée, entière, mais peut-être plus complète, profonde et complexe. Car les vieux n'ont plus rien à prouver et assument pleinement leurs désirs tout autant que leurs difficultés et leurs faiblesses. Des nouvelles contraintes ou limites déboulent de nouvelles attitudes, manières et approches de la sexualité. Ce qui est intéressant lorsqu'on s'interroge sur la sexualité des vieux, c'est qu'on en vient à interroger la nôtre, celle de notre génération. On oublie bien trop souvent que la sexualité ne devra pas être une course à l'orgasme, établie comme étant le critère essentiel et bien trop souvent unique d'une relation sexuelle réussie. On oublie trop que la sexualité devrait rester une alcôve d'intimité partagée avec une personne importante, unique et particulière. La sexualité des vieux, pour ceux qui peuvent encore la pratiquer et qui en ont l'envie, nous enseigne à examiner notre propre rapport au corps. Bien que jeunes, nous sommes bien souvent plus complexés, obsédés par l'apparence, le poids, la technique, la performance. La sexualité pratiquée par les vieux nous réapprend qu'au-delà du rapport génital, l'intimité entre deux personnes réside dans la complicité, dans la profondeur, la confiance, l'humour, le laisser-aller, la bienveillance, la tendresse, le jeu et le respect. Les vieux nous apprennent à nous, les plus jeunes, que la sexualité devrait rester cette rencontre avec l'autre, si précieuse et décomplexée, unique et particulière. Cette rencontre physique, magnifique et porteuse des plus belles promesses.
Texte et narration, Aurélie Subercico.
Les jeux de séduction et les débuts de l'amour sont parmi les plus belles choses qu'il soit donné de vivre à un être humain. Au cœur du couple en amour, la sexualité évoluera à mesure que les amants apprendront à se connaître. Et puis un jour, la plupart du temps, le désir se fera tendresse. Certains ne s'accommodent pas d'une relation amoureuse sans passion. Ils vivront l'intensité d'un échange amoureux sans la durée. Le mystère qu'inspire l'autre qu'on ne connaît pas encore attise le feu de la passion, mais s'estompe vite dans une vie à deux. Et pour ceux qui pensent comme Brassens, « À aucun prix, moi, je ne veux effeuiller dans le pot-au-feu la marguerite. » Dans « Le banquet » ou « Discours sur l'amour », Platon rattache l'amour au désir d'immortalité qui travaille tous les êtres vivants. L'homme veut se survivre à lui-même et tous les travaux des ambitieux et des artistes ont pour but l'immortalité. Mais leurs efforts ne perpétuent que leur nom, tandis que l'amour perpétue l'homme lui-même dans ses enfants. Platon ajoute que la dimension charnelle n'est que le premier degré de l'amour et qu'une âme bien née doit s'élever de l'amour des corps à l'amour des âmes, puis à l'amour des sciences pour aboutir à l'amour de la beauté absolue. À ses yeux, l'amour de la femme est un amour inférieur. Seul l'amour de l'homme pour l'homme est digne de séduire une âme généreuse née pour la philosophie. Même Platon peut s'égarer. Sautons quelques siècles. Pour cerner cette indissociable dualité que forment l'amour et la sexualité, je me suis attardé à Bukowski. L'amour arrivait comme un coup de poing, et très rarement. Le plus souvent pour les mauvaises raisons. Simplement, les gens se fatiguent de refouler leur amour, et un beau jour, ça sort, parce que ça a besoin d'aller quelque part. Ensuite, d'habitude, commencent les ennuis. Cette réflexion est tirée de Woman, publiée en 1977, roman autobiographique et quasi pornographique de l'écrivain américain d'origine allemande Charles Bukowski. Ses relations amoureuses se vivent tout au long de sa vie dans un chaos infernal. Pour lui, le sexe et l'amour se consument dans l'alcool de façon excessive où les nombreuses ruptures se font souvent dans la violence. Jeune adulte, déjà, il vit dans des chambres d'hôtels miteux, vivotant d'emplois inintéressants et de femmes qu'il ramène de ses virées nocturnes dans les bars. Il erre à travers les États-Unis, cherchant d'ailleurs des chambres à proximité d'un bar. Son recueil de poèmes « L'amour est un chien de l'enfer » publié en 1977, alors que Bukowski a 57 ans, en témoigne. Toutes celles que je connais sont des traînées, d'anciennes putes, des folles, dingues. Or, je vois des hommes avec de tranquilles, de gentilles petites femmes. Je les vois se promenant dans les rues, je les vois dans leur appartement, des gens en paix, vivant ensemble. Je sais que cette quiétude n'est que momentanée. N'empêche, elle existe, et souvent, ça peut durer des heures et des jours. Toutes celles que je connais sont des drogués, des alcooliques, des traînées, d'anciennes putes, des folles dingues. Quand une s'en va, une autre arrive, pire que la précédente. Je vois beaucoup d'hommes avec de tranquilles petites femmes bien sapées, des femmes avec des visages qui ne sont ni féroces ni cruels. « N'amenez pas avec vous une traînée, dis-je à mes rares amis, sinon je tombe amoureux d'elle. » Tu ne supportais pas une femme honnête, Bukowski. J'ai besoin d'une femme honnête. J'ai besoin d'une femme honnête plus que je n'ai besoin de ma machine à écrire, plus que je n'ai besoin de ma voiture, plus que je n'ai besoin de Mozart. Je sais qu'elle existe. Mais où peut-elle bien être sur cette planète alors que les traînées me découvrent quand elles le veulent? Je sais qu'une certaine nuit, dans une certaine chambre, mes doigts caresseront bientôt une douce et claire chevelure. il y aura des chansons comme aucune radio n'en a joué, avec de la tristesse partout. Et tout ça se mélangera.
Texte et narration de François Martel.
Je m'attendais à aucun de filles quand j'ai eu des enfants. Je pensais que tout allait être tellement merveilleux et simple. Je ne voulais que ça. Donc c'était toutes des surprises, les filles un après l'autre.
Je trouve que mon couple est épanoui, mais que ma sexualité ne l'est pas du tout. Puis pour moi, ça ne me dérange pas. Ça peut déranger à mon conjoint, mais moi, ça ne me dérange pas. Donc, que notre sexualité soit très nulle en ce moment, très ronflante, très absente, ça ne m'atteint pas parce que je n'en ressens pas le besoin.
Je reconnais ce chemin par lequel tu passes en ce moment, je l'ai passé pareil. Et je trouve ça rassurant, comme tu dis, parce que quand je l'ai passé, je n'avais pas parlé. Je me suis dit, ah bah, on doit être sur le point de divorcer là. Qu'est-ce que c'est que ça? Je me disais, qu'est-ce qui nous arrive ou qu'est-ce qui m'arrive? Parce que lui, il voulait faire l'amour et moi, niette, rien. Mais bon, comme tu dis, il y avait tellement de super bons moments de famille, dehors, ou en jouant à la maison.
Et à partir du moment où on commence à faire des décomptes de combien tu fais l'amour, machin, en fait, c'est pas tant combien tu fais l'amour, parce que la notion d'amour est pas toujours là. Et justement, c'est là où pour moi, j'ai l'impression qu'il y a comme une racine et que ça crée de la gêne. C'est parce qu'on a, c'est comme si on avait scindé. C'est un peu quand on a décidé que le corps, ben, dans ma vision, là, on le séparait du spirituel. Donc du coup, ben, notre sexualité, comment est-ce qu'elle transparaît dans le couple? Est-ce qu'on est un couple spirituel? Est-ce que c'est l'union de deux personnes, puis on réfléchit à ce qui unit les valeurs qui vont unir le couple? Ou bien est-ce qu'on se positionne en disant, ben, en fond, notre sexualité, c'est ça, puis, puis c'est ça qui fonde notre couple?
Et puis c'est super frustrant dans la société dans laquelle on vit, parce qu'en effet on peut pas le dire, puis c'est le tabou du siècle là, c'est...
Ouais.
Puis tu fais des recherches parce que tu te trouves un peu anormal, puis tu te dis bon, ça va finir quand ce stade là, c'est quoi, c'est l'allaitement qui met fin à ça, parce que tu essaies de trouver une cause en fait à ton problème.
Ça a modifié ma perception de c'était quoi ma sexualité, et puis de comment est-ce que je pouvais épanouir cette sphère là en fait. Je dirais peut-être même plus carrément la sphère de l'intimité. En fait, ça a changé ma perception de ma sphère de l'intimité. Ça l'a modifiée, en fait. C'est comme si, quand on me dit sexualité, la seule chose qui venait dans ma tête, je suis désolée, j'ai très honte, mais c'est vrai, c'était pénétration, ou enfin, tu sais, l'orgasme ultime, ou des choses comme ça. Puis j'ai réalisé que ça changeait vraiment, puis qu'elle pouvait avoir des couleurs très différentes, ma sexualité.
Je pense que la plus grosse pression qu'on a, c'est le temps, en fait. Mmh. On a l'impression qu'il faut qu'on fasse tout super vite. Puis tu sais, de me donner du temps, on a tout parlé de cette capacité de se donner du temps, puis de se dire qu'on va faire les choses petit à petit, puis que ton couple, c'est pas parce que pendant un an, il va pas avoir de vie sexuelle que... Tu sais, c'est quoi un an ? Finalement, ça peut être très long,
ouais.
Comme ça peut être rien du tout. Si vous passez 40 ans ensemble, c'est rien.
Bah non, moi, sur l'échelle de... Ouais. Pour quelqu'un qui à côté a envie, puis qui a envie à tous les soirs, puis qu'à tous les soirs ça marche pas, ben un an, c'est long. Moi, j'ai l'impression que je suis comme quand tu cours un marathon, ce que j'ai jamais fait, mais tu sais, comme t'es dans ta course, puis à un moment donné, tu sais, t'es dans ta course, c'est super exigeant, mais tu réfléchis pas à c'est quoi les défis que tu traverses en ce moment, parce que t'es juste dans ta course, puis tu vas arriver. Moi, je me sens un peu là-dedans.
Ouais, pour les hommes, c'est vrai qu'ils nous regardent, je pense, des fois avec un point de vue plus loin, non? Parce que nous, on vit beaucoup l'accouchement, la grossesse, l'allaitement. Donc eux, des fois, ils essayent comme ils peuvent, en ayant envie de faire l'amour, et nous, on ne veut pas. Mais maintenant qu'on est à un stade après les trois, et dans une période un peu chargée aussi, je découvre avec joie le jour où lui, il ne veut pas faire l'amour. Enfin.
Le fait d'avoir eu les deux enfants rapprochés, d'avoir eu très 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 peu de temps pour moi, là, tout d'un coup, on dirait que les enfants sont un peu plus grands, puis ils sont à la garderie. Je retrouve du temps pour moi, puis on dirait que je passe en priorité avant le couple. Peut-être parce que justement, ce couple-là ne m'inquiète pas, puis parce que je trouve qu'on est bien, puis je trouve qu'on a une super vie de famille. Puis pour moi, c'est ça, c'est devenu ça le couple, c'est la vie de famille. Mais justement, la pensée sociale dirais que c'est inquiétant parce qu'il faut mettre de l'énergie dans le couple et dans la sexualité. C'est comme ces mathématiques, il faut comme tout diviser. Puis... Mais justement, pour moi, il y a des phases dans la vie. Puis il y a eu la phase osmose enfant, allaitement, toujours des enfants dans les bras où là, regarde, quand j'ai pas un enfant dans les bras, je veux pas quelqu'un d'autre. Là, ensuite, il y a la phase moi. Je reprends contact avec moi, j'essaie de voir qui je suis là, après tout ce bouleversement-là personnel. Ben, le couple viendra après, puis pour moi ça m'inquiète pas. Puis je trouve que quand on veut patiner avec les enfants, on a autant de fun ensemble que si on était allé juste manger au resto en se regardant dans le blanc des yeux.
Propos recueillis par Justine Restello. Vous êtes toujours à l'écoute de Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Plus tôt en début d'émission, nous avons entendu l'amour, le couple et la sexualité après l'arrivée des enfants. La méthode symptothermique, l'amour au temps de Bukowski. Et la musique de trio avec La première fois. Si vous avez manqué la première partie, vous pouvez télécharger nos émissions en balado via laplumedefeu.com. À venir dans la deuxième partie, la fidélité et le polyamour. Une entrevue avec les instigatrices du site de Nouvelle Érotique, jesuisvenu.com. Un slam d'Annie Schneider avec complainte de l'amoureuse exilée. Et pour conclure, la sexualité chez les punaises de lit. You don't have to put on that red light. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it is right.
Maintenant, la tête et le cœur. On peut pas penser sexualité sans penser à tout ce qui est cognitif, psycho, affectif. Alors, au niveau des connaissances, hein, quelles sont les connaissances que j'ai sur ma sexualité? Quelles sont les ressources, les informations que j'ai? Est-ce que je suis pleine de méconnaissances, de fausses croyances et de mythes? Ou je sais à peu près ce que c'est et je réponds à mes questions?
Et avec la tête vient le cœur. Et le cœur, on pense directement à tout ce qui concerne les émotions et puis les sentiments. Les émotions, on le sait, hein, c'est hormonal aussi. Il y a quelque chose de très physique dans les émotions qui se vivent sur le moment présent. Et ça va influencer toutes les sensations corporelles qu'on peut vivre.
L'identité sexuelle, c'est comment je me sens comme homme et comme femme. Et il y a l'orientation sexuelle. Donc, qui m'attire autour de moi? Les hommes, les femmes, les deux. Alors, tout ça, ça fait partie aussi de cette... partie de la sexualité, l'image corporelle, comment je vois, comment je me perçois mon propre corps et comment je suis bien ou pas bien par rapport à celui-là. Les désirs, l'imaginaire, la fantasmatique, il y a beaucoup de choses dans la tête.
Et oui, et l'érotisme peut être infini, hein? Donc dans la dimension de la tête et du cœur, je pense qu'il y a énormément place à la créativité et à l'imagination.
Les relations amoureuses font partie de cette dimension de la sexualité. Alors, comment j'entre en relation, la séduction, l'engagement, hein, et comment je vis ces rapports-là qui sont tellement profonds, tellement beaux et tellement souffrants à la fois par moment.
On parle souvent de trois dimensions, l'intimité, la passion, l'engagement, qui forment un tout complet autour des relations amoureuses. Donc là-dessus, questionnez-vous à savoir où est-ce que vous vous situez exactement.
L'industrie du porno dans un monde hypersexualisé prend pas mal de place. Qu'est-ce qui existe comme alternative pour émoustiller vos 10 sens? Je me suis entretenu avec Marie Salvado et Sophie Dupuis, deux des trois instigatrices du site de Nouvelle Érotique, jesuisvenu.com.
On était trois personnes qui travaillent toutes en cinéma. Et faire un film, c'est long. Écrire, commencer à penser à l'idée, réécrire.
Et être assujetti aux demandes de subventions et attendre ces réponses-là pour écrire et travailler et avancer. On trouvait ça laborieux dans le principe d'écriture et de création.
On avait besoin de quelque chose de plus spontané, de quelque chose de plus qu'on pouvait faire, avoir un produit concret là, qu'on pouvait voir rapidement au bout. T'sais. Puis on s'est dit, on devrait écrire plus, des trucs courts. Et là, comme ça, dans une soirée arrosée, tout ça, on s'est dit, pas beaucoup de sexe dans nos films. Ce serait cool de parler de sexe. Puis là, tiens.
Hein? On s'est surtout mis au défi d'écrire quelque chose d'érotique dans un cadre très privé pour retrouver le fun de l'écriture.
Ouais,
c'était ça
vrai.
Le défi. Et après, on s'est envoyé des nouvelles érotiques. Et après,
le site.
L'idée du site.
Ah,
Sophie, t'arrives avec l'idée du site. Ouais.
Et là, l'idée des illustrations aussi. Mais c'est parce que moi, je suis pas bonne en titre. Tous mes titres sont mauvais tout le temps.
Puis, celui-là, il réussit.
Là,
ça, c'est fort.
Ouais.
Mais c'est bien parce que ça, c'est très implicite et en même temps, c'est pas gênant à dire, c'est pas vulgaire. Donc, on peut tout dire et le dire très librement. Et en même temps, c'est plein d'un sous-entendu qui est très clair. Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient en cinéma qui voulaient pas, quand ils allaient être googlés pour leur travail, notamment je pense à une directrice artistique et tout, qu'on tombe directement là-dessus. Du coup, on a pris ça comme un jeu, puis on a trouvé ça amusant de se trouver des pseudos et voilà.
Je pense que ça faisait un peu partie de la culture, de la littérature érotique, de pas signer son nom, d'être anonyme. Puis bon, il y en a dans nos auteurs qui utilisent beaucoup des trucs aussi qu'ils connaissent, un peu personnels. Je pense qu'eux autres, ils avaient envie que ça soit pas...
Plus secret, moins mis en vitrine. Il y a un petit mystère amusant. C'est plus ludique qu'autre chose, moi, je crois.
Fait qu'on a décidé que tout le monde allait jouer ce jeu-là, puis... C'est le fun parce que tout le monde est comme t'es qui, puis là on s'en force à lire toutes pour qu'ils essaient de deviner qui on est ou tu sais.
Ouais, puis c'est quand même un investissement. Il y a une régularité de travail dans la création d'images, dans les textes à livrer.
Il y a une générosité là, qui vient avec ça, fait que c'est on les aime beaucoup, puis personne n'est payé, puis c'est juste du fun, fait qu'on.
Puis ça existe grâce à eux. Faut le rappeler. Donc merci à tous.
On a deux auteurs qui avaient déjà été publiés. Sinon, les autres, c'était tous des gens qui n'avaient jamais nécessairement fait ça. Il y a eu des publications qui se sont faites par après. Des gens qui ont été attirés par certains noms pour leur proposer d'écrire dans des publications. On en parle là, de créer quelque chose, peut-être un objet, un livre, mais il n'y a rien
on,
de...
On nous le demande souvent.
Oui. C'est drôle parce que sur les plateaux, les gens connaissent beaucoup Je suis venue parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent en cinéma, qui travaillent sur Je suis venue et d'autres qui connaissent ça par hasard. Des fois, on nous en parle. Hey, j'ai lu un truc là sur Internet, un site là. Puis là, je fais, ouais, ben c'est moi puis mon ami qui a parti ça. Les gens sont comme, non! Mais ouais, c'est... on s'ennuie pas sur les plateaux, mais quand en plus on peut jaser que Je suis venue, c'est encore mieux.
Nous, on a fait ça pour le fun. Il y a beaucoup de gens qui sont venus nous dire que ça avait changé quelque chose dans leur sexualité, qu'ils avaient envie de consommer moins de porn. Cet aspect-là, qui est au-delà de l'aspect ludique, pour les créateurs qui ont écrit énormément pour eux et qui se sont obligés à écrire régulièrement, ça c'est fantastique. Mais pour les gens de l'extérieur, on a eu beaucoup de retours sur comment ils percevaient ça et comment ça les avait. Moi, c'est des gens que je connais qui m'ont avoué ne jamais lire, attendre certaines nouvelles de Je suis venue avec plein de plaisir. Évidemment, un plaisir émoustillant, sexuel et tout, mais aussi un plaisir de lire. Et moi, je trouvais ça quand même extraordinaire.
Parce que Je suis venue, à part l'illustration, il n'y a pas d'image. Les gens peuvent mettre les corps, les visages de qui ils veulent. Ils peuvent, c'est l'imagination, en fait, qui est excitante, plus que qu'on te donne tout cuit dans le bec. Puis, moi, j'aimais ça, savoir que les gens étaient excités par leur propre imagination.
J'ai déjà dit d'un sexe festif, d'un sexe positif, je trouve, dans le monde dans lequel on est, sain, c'est quelque chose qui est devenu important et c'est une ligne éditoriale qui s'est construite finalement d'elle-même, elle n'était pas là au départ.
Et même si on dit que c'est festif, ça ne veut pas dire que toutes les histoires sont positives.
Exact.
Il y a souvent des histoires où se mêlent des sentiments un peu moins fun, un peu moins de la tristesse, de la colère, peu importe. T'sais, dans l'imagination qu'on crée, il n'y a pas juste... T'sais, la porn, c'est au moment où ça commence à se lécher, puis jusqu'à la fin où le gars est venu. Ben là, nous, on a souvent un contexte autour de ça auquel beaucoup de gens peuvent s'identifier.
Le polyamour n'est pas un concept de tous les jours, car bien que très personnel à chaque pratiquant, la polygamie mérite d'être démystifiée, connue et soutenue. Être en relation multiple est un choix qui peut sembler très excitant pour certains et impensable pour d'autres. Considérez la possibilité d'être en relation avec de multiples amoureux. C'est excitant, non? Effrayant? Et la jalousie, dites-vous? De toute façon, l'amour libre n'est-il pas une excuse pour une sexualité superficielle, irresponsable et sans fidélité? Sommes-nous polyamoureux à vie? Sommes-nous polyamoureux d'un soir? Sommes-nous honnêtes et francs envers nous-mêmes et ceux que l'on aime? Comment faire face à la résistance culturelle et génétique qui nous suggère fortement de trouver notre âme sœur et de la garder comme la prunelle de notre vie? Et si je trouvais simultanément plusieurs personnes qui allument en moi l'amour et le dévouement, la joie de vivre et le rêve de construire ensemble? Il n'existe pas de code de conduite du polyamoureux. Il n'y a que des points de référence personnels qui grandissent et évoluent avec l'expérience. Il est donc important de nous questionner sur nos intentions polyamoureuses et de bien comprendre que nous sommes maîtres de notre moralité et créateurs de nos valeurs. Il est important de trouver des personnes qui comprennent nos choix et de ne pas les imposer aux autres dans la vérité ou le mensonge. Il est indispensable que nous parlions du fait que le circuit est ouvert et qu'il faut créer ensemble, au travers de discussions honnêtes, le cadre pour un échange vrai qui soutient une vulnérabilité humaine et précieuse. On prend le temps de se découvrir dans cette nouvelle position, de découvrir l'autre et surtout de s'y accueillir l'un et l'autre. La relation multiple peut ainsi devenir un terrain de soutien pour notre croissance, car chaque personne incluse apporte ses expériences, son énergie et ses émotions. Rien ne diffère de la relation monogame, me direz-vous, sauf le fait qu'il y a un apport de données plus grand, un stimulus accentué et la reprogrammation d'une longue lignée générationnelle qui nous indique un code de conduite très différent. Ce qui éveillera donc, sans doute, nos peurs relationnelles habituelles, mais amplifiées. Peur, abandon, jalousie, sentiment de trahison et autres. Le mental et les projections que nous pouvons nous faire sont en fait notre seul adversaire. Il est trop facile de se poser en victime, de rechercher ce réconfort vain et artificiel du consolé. La relation intime avec autrui n'est pas une possession, mais la proximité de deux êtres qui laissent l'énergie d'amour circuler entre eux comme deux contenants qui partagent le même nectar. Ce sentiment de mouvement intérieur peut être partagé avec beaucoup de personnes. C'est là que naît la relation intime avec certains, où nous sentons un petit plus, où il y a quelque chose à apprendre et à partager. La fidélité a toujours sa place dans la relation polyamoureuse, elle devient même raffinée. À qui ou à quoi sommes-nous fidèles? À la personne, à son amour, à sa force, à sa sexualité, à son cœur, aux habitudes de vie qui nous rapprochent. L'amour et la sexualité vont très bien ensemble, mais peuvent vivre indépendamment l'un de l'autre. Comprenez bien la nuance. Il ne s'agit pas d'union libre et de flirt à tout vent. Le polyamour n'est pas le besoin ni l'envie d'aller voir ailleurs. C'est seulement lorsqu'une amitié se présente dans tout son déploiement qu'on se permet de la vivre complètement. Il ne s'agit pas ici de trahison ni une fuite de notre vie, ni un manque de ce que l'autre ne peut nous prodiguer, mais bien une libération de son être. La troisième entité d'une relation amoureuse, celle du couple, peut être figée, contraignante, prompte à contrôler et à juger, et elle peut ainsi devenir lourde au point d'étouffer les deux individualités qui la composent. Avec le polyamour, on ne perd pas la personne qu'on aime. Au contraire, elle nous revient rafraîchie, plus belle et amoureuse encore qu'auparavant. Plus complète aussi. On devient réellement dans une dimension d'expansion vis-à-vis de nous-mêmes et, paradoxalement, de la personne aimée, car en s'offrant cette liberté, on l'offre tacitement à l'autre.
Un texte de Gaëlle Tanguy, tiré de Aube, le recueil de solutions. Narration et adaptation d'Elisabeth Daigle.
Je me suis endormi dans la pièce sombre en ayant marché une bonne demi-heure pour trouver le moyen certain de sortir. Rien n'y fit. Maître Garibaldi, malgré la qualité de ma chambre, le caractère douillet de son lit et la grosseur des fenêtres, n'avait omis aucun barreau à ma prison. Voulait-il me faire savoir qu'il était ici maître? Qu'ici, jamais ma pensée ne pourrait me permettre un sauf-conduit? Si, il avait omis une chose, mes rêves. J'appelle mes errances mentales des rêves. Là où je jubjote à la frontière de ce qui existe pour y découvrir quelques finesses par alors oubliées. et cette fois-ci, mes pensées se sont tournées vers elle, la femme. Celle qui, tout le long de ma vie, m'a apporté la satisfaction ultime de ne pas être l'illusion de mes désirs, mais bel et bien un rocher où amarrer mon cœur. Elle passait par les interstices de temps trop courts, pour discuter un soir, revenir le lendemain et partir le reste du temps je ne sais où, cueillir dans la clarté lunaire de ses voyages nocturnes la splendeur esthétique du monde qui l'entoure. Qu'est-ce qui me fit penser à elle ? Sans doute le vide, la sensation d'être dénudé dans un univers où tout ce qui nous entoure n'est pas familier. La peur aussi, creusée dans l'incurable faiblesse où le dernier événement m'avait englouti. Quoi qu'il en soit, je pensais à elle et je l'aimais. Non, j'avais choisi de l'aimer. Beaucoup de personnes, et moi le premier, avions déjà fait l'erreur éternelle de confondre l'amour avec les sens, alors qu'il est l'usage de la volonté. La femme travaillait à nous remémorer cette erreur. Nous avions choisi de l'aimer, comme elle nous avait choisi. Mais bon, quoi qu'il en soit, toutes ces errances ne changeaient rien, l'amour aussi. Bien qu'il rendît ma captivité plus supportable un court instant, il ne me donna pas d'aile pour m'envoler loin.
Nous vivons, malheureusement des fois, mais heureusement d'autres fois, en société. Alors, notre sexualité a une dimension sociale et culturelle. Dans cette dimension-là, on peut penser à toutes les normes implicites et explicites, donc les consignes, hein, comment on devrait être en relation amoureuse, en relation sexuelle. Trudeau a dit « la sexualité, hein, c'est privé, l'État va pas rentrer dans la chambre à coucher », mais l'État est là, dans la chambre à coucher.
Ça a une influence forcément sur le vécu de notre sexualité, nos relations. Et puis d'ailleurs, quand on pense à tout ce qui relève de la culture, il faut savoir que ça évolue aussi à travers le temps. Donc les époques, les cultures vont teinter nos relations, la perception par exemple qu'on a de l'amour, entre autres.
Et les rapports hommes-femmes sont au cœur de cette de la dimension socio-culturelle parce que, bon, de pays en pays, d'époque en époque, ils vont changer, évoluer ces rapports-là. Et c'est important aussi, ils influencent beaucoup nos façons d'être en relation. On pense aussi aux tabous.
Aux tabous, tout à fait, les interdits. La sexualité est un grand interdit social et c'est ce qu'on aime briser d'ailleurs au sexe à ses raisons. Et puis quand on pense à tabous, en fait, il y a plusieurs tabous à différents niveaux. On parlait tout à l'heure d'orientation sexuelle, mais je pense que ce qui est intéressant de garder en tête, c'est qu'il y a des rôles de gens qui sont excessivement ancré dans notre société.
Rigide.
Quand on parle de rôle de genre, donc c'est comment, par exemple, on attribue certaines caractéristiques aux hommes, aux femmes. Et puis, effectivement, il y a toujours les toilettes hommes-femmes qui sont très séparées, scindées, avec la femme avec la petite robe. Donc,
ça nous colle après. Mais on essaie d'en être conscient pour avoir justement l'esprit critique allumé. Alors, au niveau moral et spirituel, hein, c'est en lien également les valeurs, les croyances, les principes au plan de la sexualité, au plan de l'amour, les règles de conduite et les rituels selon les cultures également.
Et oui, les convictions sont probablement une des choses les plus longues et fastidieuses à changer d'ailleurs. Donc, il y a énormément de travail à faire en collaboration avec la tête.
Au niveau de l'éthique et légale, on peut penser au consentement sexuel, au cœur de la problématique des agressions sexuelles. Et je pense que c'est une réflexion à avoir. C'est quoi le consentement? Comment on doit... quelles sont les conditions nécessaires à avoir un consentement sexuel éclairé?
Et libre.
C'est absurde, je le sais, mais ton silence me tue et taraude mon cœur qui ne veut pas mourir à toi. Toi, mon spasme de vivre, mon credo, mon émoi, mon paroxysme de lave d'amour qui a réveillé mon volcan endormi depuis des révolutions. Douleur de ma béance exposée à tout vent, comme mon cœur palpitant en ébullition, même si mes sens se sont tus depuis que mes yeux ne t'ont plus vu. Âme en immense peine, je traîne ma carcasse amaigrie, titubante de l'ivresse du manque d'amour perdu. Terrible est ma soif, autant que fut alors, déferlant mon débordement. Aucun autre univers solitaire en dérive ne pourrait accueillir maintenant le mien, tellement mes os sont encore amères et mon fleuve intérieur lacéré de blessures vives, profondes comme l'humanité, en travail constant de ses béances à combler, comme toute la féminité souffrante en attente, comme tant de cœurs soupirants de n'être jamais approchés, malgré leur noblesse, je parle des hommes aussi. Terrible cette crainte de la différence, pourtant si nourrissante, de l'homme, du sauveur, de l'autre, l'étrange étranger. Mais notre alter ego, tant annoncé, tant appelé, n'est jamais arrivé. Supercherie classique, espérance trahie, rêves anéantis, et pourtant l'élan était sublime. Car de part et d'autre de nos abîmes, nous apercevions nos oasis si lumineuses et des continents si invitants, si verdoyants, où poser nos bardas, fascinants, utilitaires à la fois, riches de nos sensibilités, de nos mémoires conjuguées, serties de pistes remontant à l'infini. Toi, mon homme d'alors, mon inespéré, mon semblable si complémentaire, par tes cœurs et esprits apparemment si ouverts, tu as su m'enchanter, me dynamiser, me sonder comme personne jamais. Et là, sous l'intensité, mon cœur a flanché et mon corps regimbé. Et ensuite, une autre femme et cette lettre assassine ont eu raison de ne plus faire mes promesses. Après ton passage, je ne serai plus jamais la même, car pour mon bonheur, pour mon malheur, je t'ai trop et mal aimé. Touchant et triste chevalier, et tu m'as marqué au cœur d'un sceau indélébile, mon tragique artiste déchu par le vice trop nourri, prototype classique contemporain de l'humanité dévoyée. Puisqu'alors tu ne m'aimerais plus jamais, j'ai failli choisir de quitter ce corps, moi aussi, comme bien d'autres l'ont fait, pour les mêmes raisons de trahison fatale. Toujours la première cause de suicide, les peines d'amour, je vous le rappelle. Mais grâce à l'aide de pros du cœur meurtri et de mes enfants adorés, j'ai compris que mon insatiable soif, jamais comblée, datait du début de cette vie. Pauvres père et mère, eux-mêmes si carencés d'affection. Après, peu à peu, je me suis remise à ma première place. Seule issue et manière de mieux aimer le reste du monde. Commencer par soi, puisqu'on part de là, nous-mêmes ramenés au centre de notre univers, alimentés par la source des puits célestes et intérieurs, en étroite connexion. Alors, dorénavant, comment éviter ces écueils érigés par des cœurs à corps si risqués pour les égaux? Soit, j'apprendrai encore. Mais qu'un semblable suivant fait d'esprit, de chair et de sang, sincère et pourvu d'intentions claires, au risque de souffrir encore. Je l'appelle l'unique, le seul, le vrai, le suivant, créé pour moi, moi pour lui, même sur le tard, car jamais on ne cesse d'appeler l'amour au secours. Qu'il me reconnaisse, m'interpelle et m'accueille avant nos ultimes crépuscules, mais cette fois-ci tout autrement, sans plus de fourberie ni détour. Viens, quitte à ce que soit toi, veilleur de l'au-delà, mon animus céleste, mon ange déjà gardien que j'attends depuis tant de temps. Ou toi, mon amour encore bien incarné, qui m'espère tout autant, depuis toujours.
Un texte d'Annie Schneider, du nom de « Complainte de l'amoureuse exilée ». De toutes les formes de sexualité animale, celle des punaises de lit est la plus stupéfiante. Nulle imagination humaine n'égale une telle perversion. Première particularité, le priapisme. La punaise des lits copule énormément. Certains individus ont plus de 200 rapports par jour. Seconde particularité, l'homosexualité et la bestialité. Les punaises des lits ont du mal à distinguer leurs congénères. Elles éprouvent encore plus de difficultés à reconnaître les mâles des femelles. 50% de leurs rapports sont homosexuels, 20% se produisent avec des animaux étrangers, 30% enfin s'effectuent avec des femelles. Troisième particularité, le pénis perforateur. Les punaises d'ailier sont équipées d'un long sexe à cornes pointues. Au moyen de cet outil semblable à une seringue, les mâles percent les carapaces et injectent leurs semences n'importe où, dans la tête, le ventre, les pattes, le dos et même le cœur. L'opération n'affecte guère la santé des femelles, mais comment tomber enceinte dans ces conditions? Quatrième particularité, la vierge enceinte. De l'extérieur, son vagin paraît intact et pourtant, elle a reçu un coup de pénis dans le dos. Comment les spermatozoïdes mâles vont-ils alors survivre dans le sang? En fait, la plupart seront détruits par le système immunitaire. Pour multiplier les chances qu'une centaine de ces gamètes mâles arrivent à destination, la quantité de sperme lâché est phénoménale. À titre de comparaison, si les mâles punaises étaient dotés d'une taille humaine, ils expédieraient 30 litres de sperme à chaque éjaculation. Sur cette multitude, un tout petit nombre survivra. Cachés dans les recoins des artères, planqués dans les veines, ils attendront leur heure. La femelle passe l'hiver squattée par ses locataires clandestins. Au printemps, tous les spermatozoïdes se rejoignent autour des ovaires, les transpercent et s'y enfoncent. La suite du cycle se poursuivra sans problème aucun. Cinquième particularité, les femelles au sexe multiple. À force de se faire perforer n'importe où par des mâles indélicats, les femelles punaises se retrouvent couvertes de cicatrices dessinant des fentes brunes cernées d'une zone claire, semblable à des cibles. La nature a encouragé ces coquineries et engendre d'étranges adaptations. Les filles punaises se sont mises à naître nanties de ces cibles brunes auréolées de clair sur leur dos. Reliée au sexe principal, cette particularité existe actuellement à tous les échelons de son développement, quelques cicatrices réceptacles à la naissance, véritables vagins secondaires dans le dos. La sixième particularité, l'auto-cocufiage. Que se passe-t-il lorsqu'un mâle est perforé par un autre mâle? Le sperme survit et fonce comme à son habitude vers les régions des ovaires. N'en trouvant pas, il déferne sur les canaux déférents de son hôte et se mêle à ses spermatozoïdes autochtones. Lorsque le mâle passif percera lui, une dame, il lui injectera ses propres spermatozoïdes, mais aussi ceux du mâle avec lequel il aura entretenu des rapports homosexuels. Septième particularité, l'hermaphrodisme. Les mâles punaises ont eux aussi muté. En Afrique, les mâles naissent avec de petits vagins secondaires dans le dos. Ceux-ci, cependant, ne sont pas féconds. Il semble qu'ils soient là à titre décoratif. Huitième particularité, le sexe canon qui tire à distance. Le sperme est propulsé à grande vitesse par des muscles spéciaux qui l'expulsent hors du corps. Ainsi, lorsqu'un mâle aperçoit une femelle à quelques centimètres de lui, il vise de son pénis les cibles vagins dans le dos de la demoiselle. La puissance de ces tirs est telle que le sperme parvient à transpercer la carapace plus fine en ces endroits. Non, définitivement, l'humain n'a rien inventé au sexe. Un texte tiré de l'Encyclopédie du savoir relatif et absolu de Bernard Werber. BernardWerber.com. C'est ce qui conclut le 34e épisode de Aube. Toutes nos émissions vous sont offertes en balado et peuvent être téléchargées via laplumedefeu.com. Si vous vous sentez inspiré par Aube, nous vous invitons à participer à notre émission. Chaque épisode est le fruit des collaborateurs du moment. Si vous avez deux minutes pour nous offrir vos commentaires, il nous ferait grand plaisir de vous lire sur laplumedefeu.com, sur Facebook ou via Twitter. Dans cette émission, vous avez entendu les œuvres de Philippe Laramé, de Marie-Claude Journeau, d'Aurélie Suberchico, Jean-Baptiste Gardarin, Elisabeth Daigle, Annie Schneider, Justine Rastello, Edith Fanny Morin et Kim Brière-Charret de l'émission Le Sexe a ses raisons. À la réalisation, au montage et à la mise en onde, Philippe Laramé.